Radio Okapi. Oh, Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Calme apparent aujourd'hui sur toutes les lignes de front dans le massif au Nord Kivu. Par ailleurs, Médecins sans frontières rassure la population que ses équipes n'ont pas quitté Mueso. Elles restent présentes pour aider la population à faire face à une situation humanitaire difficile. Bientôt la fermeture du bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA dans le Grand Kasaï. En prélude à cette fermeture, une séance de vulgarisation de la politique nationale des actions humanitaires s'est tenue hier à Mbujimayi. Objectif, faire comprendre aux services étatiques leur rôle dans la gestion des catastrophes. Et puis, l'invité de ce midi, Mungwankonkwa Matabishi Mokili, un jeune écrivain congolais de Goma, il vient de publier un livre dans lequel il insiste sur le concept de comités locaux de sécurité institués récemment par un décret présidentiel en lieu et place de la police ou des cours et tribunaux par exemple. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Un calme apparent s'observe sur toutes les lignes de front ce dimanche, aussi bien dans la matinée que dans la mi-journée en territoire de Masisi. C'est notamment à Karuba, Musongati, Katembe Kingi, ainsi qu'à Mueso, Butale et Kibashiro. Des sources concordantes dans le Masisi confirment la présence des rebelles dans la cité de Mueso, tandis que sur l'axe Karuba, ces rebelles seraient à Karuba, Bushue, Mandale jusqu'à Mushaki. Cependant, dans la cité de Saki, plus au sud, les activités se déroulent normalement ce dimanche malgré la psychose provoquée par des bombardements d'hier qui ont fait un mort et quatre blessés graves. Par ailleurs, Médecins sans frontières, MSF, rassure la population que ses équipes n'ont pas quitté Mueso. Elles restent présentes pour aider la population à faire face à une situation humanitaire difficile. Toutes les activités médicales se poursuivent à l'hôpital général de Mueso et dans les centres de santé appuyés par MSF, a déclaré à Radio Okapi Tchalar Tairoglou, coordonnatrice du projet MSF à Mueso. MSF reste l'unique organisation humanitaire présente dans les zones occupées où celle des affrontements en territoire de Masisi et une partie de Rutshuru. Sifa Maguru nous en parle.
Depuis près de 6 jours, d'intenses combats ont été enregistrés dans la région de Mueso, provoquant une catastrophe humanitaire et des dégâts humains et matériels importants. Le 25 janvier, MSF dit avoir pris en charge au moins 36 blessés, en majorité des civils, dont 15 enfants, alors que 20 personnes sont décédées à la suite des bombardements. Tchalar Tairoglou, coordonnatrice du projet MSF à Mueso, explique.
Pour les 8000 personnes réfugiées au sein de l'hôpital, des abris temporaires ont été fournis. Des activités liées au renforcement de l'hygiène dans ce site ont été également mises en place pour éviter le développement des maladies hydriques. Nous avons aussi envoyé des ambulances en collaboration avec BCZ, même pendant cette période-là, pour prendre en charge toutes les blessés et toutes les urgences médicaux qui peuvent se présenter pendant cette période.
MSF se dit très inquiet des conséquences que subit la population civile et appelle tous les belligérants au respect des droits humanitaires pendant le combat.
Très inquiète des conséquences pour les civils. Les blessures, manque de protection, besoin de bases non couvertes, de nouveaux déplacements. Nous avons aussi fait appel plusieurs fois pour le respect des droits internationaux humanitaires concernant les hôpitaux, les santé et les zones civiles. Nous demandons à toutes les parties au conflit à assurer la protection des civils.
Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, 4 civils de plus ont été tués par les rebelles des ADF samedi à Mangazi, à l'ouest d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Selon la société civile de Mamové qui livre l'information, ces rebelles ont surpris les victimes dans leur champ. Kinos Katou, président de la société civile du territoire de Beni, ajoute que ces rebelles ADF sont actuellement visibles dans plusieurs villages de cette partie du territoire où ils terrorisent la population et l'empêchent de vaquer librement à ses occupations. Il appelle la coalition FARDC-UPDF a lancé des opérations militaires dans cette zone. Kinos Katou, joint par Guylaine Kassassia.
L'ennemi a pillé à Mangazi, village situé à 10 km de Mamové et Beoumanyam. C'était dans la matinée de ce samedi où l'ennemi a surpris celle-ci dans son champ. C'est pour cela que la population continue à se demander pourquoi l'armée n'a jamais pris des dispositions et mécanismes pour éradiquer cet ennemi qui vient de faire plus de 10 ans dans cette agglomération en train de causer plusieurs dégâts. Nous sollicitons les renforcements manquement d'effectifs et le lancement des opérations conjointes IPDF-FARDC. L'installation des éléments de l'IPDF à Mamove et Beoumanyama dans un bref délai. Nous appelons la population à collaborer avec les services de sécurité pour donner des informations concernant cet ennemi. Nous continuons toujours à appeler la population de Mabuo, Sepan 47, Ngubo, Baeti, Makumo, Kukutama et Biakato d'être très vigilants car l'ennemi vient de prendre la destination de ces villages cités si haut.
Insécurité aussi dans la province du Congo central, recrudescence des cas de criminalité ces derniers temps à la cité de Kimpese, territoire de Songololo. En une semaine, 4 centres de santé ont été visités par des bandits armés, le personnel soignant tabassé, l'argent et le dispositif médical emporté. Trésor Boutandou, premier vice-président de la société civile locale qui livre l'information, indique qu'à cause de l'inaction des services de sécurité observés à Kimpese, la population a pris l'option de l'achat des armes au calibre 12 pour s'autodéfendre face aux bandits armés. Nana Plurich Mambou nous en parle.
Les premiers centres à être visités par ces malfrats, c'est le centre de santé La Famille, situé au quartier 4 de l'avenue Madiadia. Et le second, c'est le centre de santé de l'église Sebko au quartier 2. Ces bandits ont tabassé le personnel soignant, les gardes des malades, voire les malades qui leur résistaient. Avant de disparaître dans la nature, ces inciviques ont emporté le bien des valeurs des malades, ainsi que les dispositifs médicaux de l'hôpital, tels que les microscopes et les médicaments. Les jeudi, ces bandits ont refait cette sale besogne à l'hôpital Télépathie et au centre de santé Philippe. Après les menaces des morts à l'endroit des victimes, ces criminels ont pu ravir les coffres forts, les dispositifs médicaux ainsi que les biens de valeur des malades. Ils sont allés clôturer leur opération dans une boulangerie de la place où ils ont volé tout l'argent de la commande des pains. Trésor Boutandou, premier vice-président de la société civile du territoire de Songololo qui dénonce cette recrudescence des cas de criminalité, affirme que les interventions de la police y sont toujours tardives. Cette façon de faire pousse la population à vouloir s'autodéfendre en s'offrant des armes calibre 12 fabriquées localement, ajoute-t-il. Ces derniers invitent les autorités compétentes à agir d'urgence pour éradiquer cette insécurité. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Entre-temps, ici à Kinshasa, un motard a été retrouvé mort hier vers 5h du matin sur l'avenue Makanza, entre les directions Ilengesa et Khartoum, dans la commune de Ngiringiri. Après lui avoir arraché sa moto, les bandits l'ont tué par balle. Selon une source qui a requis l'anonymat et cité par un autre témoin indirect, ce crime a été commis par deux hommes armés non identifiés. Reportage d'hier sur place avec Greta Lulendo.
Peter, un jeune motard de 20 ans, résident à Bumbu, a trouvé la mort tôt ce matin sur l'avenue Makanza. Confirmation d'un des collègues motards ainsi qu'un membre de la famille du disparu.
Notre fils sort généralement à 5 heures du matin et aujourd'hui il a croisé des criminels sur sa route. Ils ne lui ont pas seulement volé sa moto, mais ils lui ont aussi arraché la vie.
Son nom c'est Peter. Il est resté à Bumbu sur l'avenue Landou entre les directions Chaba et Gambela.
Les motards sont toujours en insécurité, peu importe l'heure à laquelle ils travaillent, affirme cet autre motard, âgé d'une vingtaine d'années lui aussi.
Le cas des vols des motos a replu de plus belle. Ces criminels sont de nouveau de retour. Ils les font même en public. Nous demandons au gouvernement de trouver une solution à ces problèmes.
D'après cette jeune femme, habitante de la commune de Ngiringiri, la solution, c'est la lumière publique à placer sur la grande avenue Makanza.
Qu'ils mettent la lumière publique, car ce quartier a un problème d'électricité. Nous vivons dans le noir complet. Dans d'autres milieux, à 5 heures, les gens circulent déjà, mais ici, les gens sont encore chez eux, par prudence.
Hormis le problème de vol des motos, notez que les habitants parlent aussi du phénomène Kuluna qui bat son plein. La population se sent en insécurité à toute heure de la journée comme de la nuit.
Direction le Kasaï oriental, signalons la vulgarisation hier à Mbujimayi de la politique nationale des actions humanitaires. Cet atelier organisé par le ministère des actions humanitaires intervient à quelques jours de la fermeture dans le Grand Kasaï du bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Les responsables des services étatiques concernés par les actions humanitaires et les catastrophes, ceux des organisations nationales et internationales, ainsi que les représentants des agences du système des Nations Unies ont participé à cet atelier d'un jour. D'après le secrétaire général général au ministère des tutelles, le but de cette activité a été de faire comprendre aux services étatiques leur rôle dans la gestion des catastrophes. Alain Yeti, secrétaire général au ministère des Affaires humanitaires, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Nous la vulgarisons dans ces contextes, notamment dans le Kasaï, parce que, vous savez, la situation est devenue stable. Le bureau des Nations Unies en charge des affaires humanitaires doit fermer. Et c'est ce bureau qui aidait l'État dans la coordination. Maintenant, il faut que les services étatiques montent au créneau pour reprendre le travail de coordination. La première chose, c'est que les acteurs doivent connaître le rôle, les attributions, les outils qui existent, et puis les attitudes et les pratiques qui permettent d'avoir une bonne coordination. La coordination voudrait dire qu'on doit être ensemble pour identifier le besoin, on doit être ensemble pour mener les évaluations, être ensemble aussi pour mobiliser des ressources et rendre compte. Alors si cela est fait, nous avons dit que c'est la responsabilité de l'État qui doit mettre le moyen à la disposition de ses services. C'est ce qu'on appelle le renforcement de l'autorité de l'État qui va avec les capacités techniques mais aussi les moyens pour faire le travail sur le terrain.
Restons au Kasaï oriental. La spoliation des concessions Miba par les autochtones a été au centre des discussions la semaine dernière à Kinshasa entre la gouverneure intérimaire Julie Kalenga et Jean-Charles Okoto, président du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga Miba. Les deux personnalités entendent trouver des solutions durables et pacifiques à ce problème. Jean-Charles Okoto affirme que l'entreprise minière va récupérer toutes ses concessions spoliées à travers la République. En sa qualité de diplomate, il a d'abord privilégié les pourparlers. Jean-Charles Okoto Lolakombe, président du conseil d'administration de la MIBA, au micro des journalistes du gouvernorat du Kasaï oriental.
Les concessions MIBA sont presque envahies par la population. Et notre devoir de pouvoir protéger, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'avais reçu d'abord le chef de Bakwanga qui est venu ici, je me suis entretenu également avec. Et là, je venais de contacter le DGA qui est sur place. D'ici peu, je vais descendre à Bougibaye avec elle pour que nous arrivions à trouver une solution de la meilleure. Et j'ai commencé d'abord, en tant que diplomate, dans des pourparlers. Je ne peux pas prendre des décisions comme ça sans pour autant réunir les éléments d'une décision rationnelle. Et qu'ils sachent bien qu'on ne laissera jamais, jamais les concessions MIBA envahies à travers toute la République. Nous sommes entrés, le conseil d'administration est entré d'amorcer les démarches pour que nous puissions situer toutes les concessions et nos concessions seront toujours MIBA. Et à tous ceux qui veulent des aventures, je crois qu'il est grand temps pour qu'ils puissent prendre leur disposition.
Parlons éducation à présent. Le calendrier scolaire 2023-2024 prévoit du 7 au 15 février prochain les examens du premier semestre dans les écoles secondaires. Pour ce faire, au Maniema, le directeur de la province éducationnelle Maniema 1 a réuni tous les chefs d'établissement de sa juridiction hier pour quelques instructions. Devant ses hôtes, Mokito Kaunda interdit à ces derniers de renvoyer les élèves qui n'ont pas payé les frais scolaires et aux parents de s'acquitter de leurs devoirs. Mokito Kaunda Séraphin, dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Vous êtes sans ignorer que nous sommes à la veille des examens du premier semestre au niveau secondaire. Mais nous ne pouvons pas laisser les chefs d'établissement organiser les examens sans leur communiquer, transmettre les instructions concernant les examens, le respect du calendrier scolaire. C'est pour cette raison que nous avions invité tous les chefs d'établissement de notre juridiction de venir parler avec nous, leur communiquer les instructions relatives aux examens du premier semestre. Les chefs d'établissement doivent préparer les enfants pour affronter cet examen. Ça, c'est un. Et ils doivent avoir l'esprit d'osmologie. Il ne faut pas compliquer les enfants. Il y a des questions difficiles, il y a aussi des questions faciles qui doivent être à la portée des enfants. Les parents ne connaissent même pas là où leurs enfants étudient. Mais au niveau secondaire, l'enseignement n'est pas gratuit. Je lance un appel vibrant à tous les parents. Là où ils ont inscrit leurs enfants, ils doivent aller payer ne fût-ce que le prix de frais là. Moi, j'ai interdit au chef d'établissement de faire retourner les enfants à la maison. En même temps, je lance cet appel aux parents qu'ils passent au moins payer les paies de frais que l'État a demandé.
Actualité internationale.
Nous sommes au Kenya. Des milliers de personnes ont manifesté hier dans plusieurs localités pour protester contre le meurtre d'au moins 14 femmes depuis le début de cette année. Parmi les victimes, deux ont été tuées dans des logements. Une autre victime était une étudiante universitaire qui a été démembrée et décapitée après avoir été enlevée pour obtenir une rançon. Sa tête a été retrouvée dans un barrage lundi, une semaine après la découverte de son corps démembré dans une poubelle. Une semaine plus tôt, le corps d'une autre jeune femme a été retrouvé dans un appartement avec plusieurs coups de couteau. Cette manifestation contre le féminicide était la plus importante jamais organisée dans le pays pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes au Kenya. Les manifestants ont brandi des pancartes portant des messages forts tels que « Rien ne justifie de tuer des femmes » dans les rues de plusieurs villes du Kenya. Des cris de colère résonnaient.
L'invité.
Comment améliorer la gouvernance sécuritaire dans nos communautés et au Congo tout entier? Bien sûr, des institutions ad hoc existent, comme la police et les cours et tribunaux par exemple, mais un jeune écrivain congolais de Goma insiste lui sur le nouveau concept de comités locaux de sécurité institué récemment par un décret présidentiel de novembre 2023. L'auteur du livre paru dernièrement à Goma et intitulé « Théorie du triangle sécuritaire » expose la conception des comités locaux de sécurité, la base de son livre. Mungwa Konkwa Matabishi Mokili s'entretient avec Jules Ngala.
Monsieur Mungwa Konkwa Matabishi Mokili, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes ici dans nos studios pour nous parler d'un livre. Comment il est intitulé?
Notre livre, il est intitulé « Théorie du triangle sécuritaire, manuel du civisme sécuritaire et de la sécurité communautaire ».
Comment vous pouvez le résumer?
Notre livre contient 11 chapitres. C'est une recherche que nous avons effectuée pendant plus de 16 ans.
Le produit d'une recherche.
D'une recherche qui a duré 16 ans. Et cette recherche est axée sur la possibilité d'instaurer une sécurité participative dans le pays post-conflit, cas de la RDC.
Allons-y maintenant. Le résumé de votre livre, brièvement.
La théorie du triangle sécuritaire, manuel du civisme sécuritaire et de la sécurité communautaire, vise non seulement à promouvoir la gouvernance sécuritaire, mais aussi initier une pratique d'éducation civique basée sur la sécurité, d'où nous faisons de la sécurité un marché commun. Et aujourd'hui, nous voulons que la République démocratique du Congo, pour que nous puissions quitter de ces regrets de guerre, de cette page noire des guerres que nous connaissons à l'est de la RDC et sur toute l'étendue de la République, que la population, ensemble avec le service de la sécurité et les autorités politico-administratives, puisse considérer la sécurité comme un patrimoine que nous devons défendre.
Un patrimoine commun.
Un patrimoine commun. Et pourquoi pas même individuel. Parce que je suis en train de considérer la sécurité de l'État comme l'individu face à son entretien personnel. Lorsque les citoyens ne s'engagent pas pour sa protection, pour son entretien, son encadrement, et donc notre pays fera toujours objet de turbulences, objet d'insécurité, et c'est nous qui serons toujours mal à l'aise. Raison pour laquelle nous sommes en train de développer la théorie telle que l'existence de tout citoyen est inhérente à l'existence de notre pays. Il n'y a pas un citoyen sans territoire. Il n'y a pas un territoire sans citoyen. Et s'il en est le cas, de manière égale, nous appelons toute la communauté à prendre conscience sur les faiblesses qui ont caractérisé toute la communauté, les acteurs et le mandataire, en ce qui concerne la sécurité, pour que nous puissions faire une sécurité participative et ensemble, nous allons constituer une œuvre de paix en République démocratique du Congo et ce message sera aussi bénéfique pour d'autres pays post-conflit.
Vous appelez tout le monde à prendre conscience du fait que la sécurité est une chose commune. Où est-ce que vous mettez la responsabilité des autorités?
C'est effectivement cette connaissance anachronique que nous voulons combattre. La sécurité actuelle, pour qu'elle soit efficace,
la nouvelle sécurité,
elle a besoin de la participation de tout le monde et de manière équitable. Tout le monde a ses responsabilités. Il y a quelqu'un qui est chargé de donner le moyen. Il y a l'autre qui est chargé d'apporter sa technicité. Il y a l'autre qui est chargé de donner l'information. Mais nous tous, nous contribuons au même pied d'égalité pour que nous puissions sécuriser notre pays. C'est vraiment ancien. Si on doit considérer que, comme la police est là, comme les FARDC sont là, et donc nous, on ne doit pas s'occuper de la sécurité. Non, non, non et non.
Merci beaucoup, Monsieur Mungwa Konkwa Matabishi Mokili.
Notre invité est écrivain. Il répondait aux questions de Jules Ngalawamona. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, Alain Goy à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.